parce que comprendre les enjeux du bien-être de nos aînés permet de mieux les accompagner, La Pause Santé interviewe des experts de la santé pour vous, auxiliaires de vie, qui êtes au plus proche des personnes âgées au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Santé. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux troubles de la déglutition chez les personnes âgées, un enjeu de santé majeur. Et pour comprendre comment les prévenir et les éviter, je vais interviewer pour vous l'orthophoniste Noémie Perrier. Noémie Perrier, bonjour. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auxiliaires de vie qui nous écoutent ?
Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, donc je m'appelle Noémie Perrier, je suis orthophoniste à côté de Montpellier, en libéral, et puis aussi j'ai 2 demi-journées dans un EHPAD. Voilà, ma population, c'est beaucoup d'adultes et aussi des enfants, mais c'est vrai que j'ai une population qui est largement adulte et avec lesquelles, du coup, je traite de troubles de la déglutition.
Ok, super, donc ça tombe bien puisqu'aujourd'hui vous êtes là pour nous parler de ce sujet des troubles de la déglutition donc chez la personne âgée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un trouble de la déglutition et quel est le rôle d'un orthophoniste auprès des personnes âgées qui y sont sujettes ?
Un trouble de la déglutition, eh bien, c'est très complexe déjà, donc je vais essayer d'être claire. Donc ce sont des difficultés qui apparaissent au moment du transit du bol alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on a en bouche, que ce soit des liquides ou des solides. Donc au moment de leur transit de la bouche jusqu'à l'estomac. Il y a plusieurs temps dans la déglutition, différentes étapes, et ces différents temps peuvent être atteints et ne permettant pas au sujet de pouvoir s'alimenter avec plaisir et sécurité. On peut parler de deux, il y a deux termes bien distincts. On parle souvent de presbyphagie, c'est le vieillissement naturel de la fonction de déglutition. C'est une altération qui est liée à l'âge et qui est peu perceptible à partir de 65 ans, mais un peu plus autour de 80 ans. Voilà, donc ce sont des difficultés normales, c'est pas du tout de l'ordre de la pathologie, mais ça contribue à altérer la déglutition dans le cadre du vieillissement. Et puis un autre terme qu'on appelle la dysphagie, là ce sont des difficultés de déglutition bien plus marquées qui apparaissent dans le cadre de maladies chroniques, et donc là on est vraiment dans la pathologie, donc dans le cadre de maladies neurologiques ou neurodégénératives ou dans des pathologies oncologiques, post-cancer. Et puis, c'est un trouble qui est très, qui a une prévalence qui est forte, hein, que ce soit chez les personnes âgées à domicile ou en EHPAD. En EHPAD, ça peut aller jusqu'à 60% des personnes atteintes de dysphagie. Donc, c'est un vrai sujet qui nécessite que l'on s'y penche sérieusement. Et puis l'orthophoniste, qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Je crois que c'était la suite
de
la question. Alors l'orthophoniste, donc c'est un professionnel de santé qui intervient que sur prescription médicale et qui d'abord va réaliser une évaluation clinique, c'est-à-dire un bilan de la déglutition pendant lequel il va identifier les différentes causes possibles des problèmes de déglutition, estimer la sécurité de la déglutition, les différents risques pulmonaires, d'asphyxie, de dénutrition, déshydratation, et puis soutenir aussi toutes les décisions qui vont être prises concernant l'alimentation, qu'elle soit orale ou non, avec une sonde par exemple, et puis aussi établir un profil à un moment T d'un sujet, puisque il est fort possible qu'on réévalue cette déglutition quelques temps après. Donc voilà, déjà de l'évaluation, c'est la première chose. Et puis aussi, on a un rôle en tant qu'orthophoniste de prévention et d'information auprès des aidants, que ce soit des aidants naturels, des aidants familiaux ou des aidants professionnels. On peut aussi prendre en soin certains sujets, mais ça dépend vraiment des difficultés, du contexte d'apparition des difficultés, disons. Et puis avec la personne âgée, notamment en structure, comme dans les EHPAD, on est vraiment là pour bilanter et orienter des adaptations, je pense qu'on en parlera après, des adaptations au niveau des textures, des postures, de l'environnement, des adaptations matérielles. Voilà, et tout ça souvent en lien avec l'ergothérapeute de la structure, s'il y en a un.
Quels sont les premiers signes, les symptômes les plus courants des troubles de la déglutition auxquels les auxiliaires de vie pourraient être vigilantes ?
Il y a de très très nombreux symptômes, signes évocateurs, on va dire ça comme ça, de difficultés de déglutition, mais parmi eux, on pense déjà peut-être à la toux, à la fausse route, au raclement de gorge. Ça, c'est le signe que tout le monde connaît, mais c'est loin d'être le seul. Ça peut aussi être des vomissements ou des douleurs, un reflux aussi, un reflux gastro-œsophagien. Ça peut être aussi des changements au niveau du comportement du sujet au moment du repas, un repas qui va être allongé ou à l'inverse réduit, des aliments qui vont être délaissés, un refus de s'alimenter, et puis aussi une dénutrition avec une courbe de poids qui va s'affaisser, des encombrements pulmonaires, une voix qui va être un petit peu modifiée, plus rauque, plus graillonnante. Voilà, ça fait partie des signes les plus fréquents.
Ok, vous avez évoqué donc les fausses routes, on les connaît tous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et quelles sont ses causes ? On verra par la suite comment les éviter.
Oui, la fausse route, bien, c'est défini par le passage d'un bol alimentaire dont on parlait tout à l'heure, que ce soit du liquide, du solide ou simplement de la salive, qui est issu de la bouche ou d'un reflux gastro-œsophagien qui va en fait dans les voies respiratoires. Donc en gros, c'est pas le bon chemin qui est pris par le bol alimentaire, donc celui des voies digestives, mais le mauvais, celui des voies respiratoires. Et donc, mais en fait, ce qui devait aller dans l'estomac va dans les poumons, et donc ça peut engendrer des pneumopathies et puis aussi une peur de s'alimenter ou de s'hydrater, parce que ben, voilà, les fausses routes, c'est quand même des situations relativement anxiogènes et qui peuvent être relativement fréquentes avec l'âge ou dans le cadre de pathologies. Juste un petit point que je trouve important, c'est que très souvent, on pense qu'il y a fausse route que lorsque la personne tousse. Donc, en effet, on peut faire une fausse route et tousser, ce qui permet à l'aliment bah, peut-être de remonter, de prendre le bon chemin ou d'être carrément expulsé. Mais c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de tout après fausse route. Donc, il y a des fausses routes qu'on appelle silencieuses et qui passent un petit peu inaperçues. Donc, voilà, ne pas se dire que c'est pas parce que celui que j'accompagne ne tousse pas qu'il ne fait pas de fausse route. Voilà, ça c'est un petit point important auquel je tenais. Et puis, sur les causes de la fausse route, pareil, elles vont être assez diverses, mais il peut y avoir des causes en lien avec un déficit au niveau sensitif, vraiment au niveau des sens. Donc, la personne ne sent pas qu'il a des choses en bouche et du coup, ces choses glissent et vont dans les voies respiratoires. Ça peut être des causes aussi en lien avec un défaut de contrôle oral des aliments lorsqu'ils sont mis en bouche ou un défaut de contrôle dans leur transport pour être déglutis, aussi avec des difficultés au niveau laryngé, un défaut de protection des voies aériennes. Donc, comme le larynx n'est plus protégé, eh bien, les aliments vont dans les poumons. Ça peut être aussi avec des difficultés de fonctionnement au niveau de l'œsophage, avec aussi, c'est fréquent, des stases en bouche, c'est-à-dire que la personne aura mangé, mais en bouche, il lui restera quelques grains de riz ou un peu de madeleine ou que sais-je. Et puis, ces stases-là, puisqu'elles ne vont pas être nettoyées forcément, vont être inhalées après et vont créer des fausses routes puisqu'elles iront dans les voies respiratoires.
Ok, merci pour toutes ces informations sur les causes qu'on comprend mieux maintenant. Et merci aussi pour ce petit point sur les fausses routes silencieuses que je ne connaissais pas. Et je pense que ça va permettre aussi aux auxiliaires de vie d'en avoir la connaissance. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler des conséquences, vous en avez évoqué quelques-unes, des conséquences d'un trouble de la déglutition ?
Alors, il y a plusieurs sortes de conséquences là aussi, mais disons qu'il y a des conséquences qui vont être plus cliniques, donc avec une malnutrition, une dénutrition, une perte de poids, une déshydratation, une asphyxie parfois aussi, et puis une altération de l'état général, avec notamment une altération de l'état pulmonaire, ce qui vaut souvent d'aller à l'hôpital et d'y passer un court ou moyen séjour. Et puis, des conséquences qui sont sur un autre aspect, des conséquences plus psychosocio-émotionnelles avec une anxiété, un déplaisir et une mise en retrait, puisque toutes ces difficultés d'églutition dégradent de façon importante la qualité de vie.
Maintenant qu'on en sait plus sur les troubles de la déglutition, leurs conséquences, on va s'attaquer à une partie importante. Il est important de rappeler qu'il existe aussi des recommandations pour les éviter. Est-ce que vous pouvez nous parler des gestes, des postures à adopter pendant les repas, par exemple, pour minimiser les risques ?
Oui, alors Alors, en effet, la posture, ça fait partie des choses les plus importantes pour pallier ces difficultés. Déjà, la bonne installation de celui qui est en train de s'alimenter avec, donc, s'il peut s'asseoir avec les pieds au sol ou sur des cale-pieds, avec le dos bien droit, la tête bien droite aussi, les fesses bien au fond de la chaise, du fauteuil, du siège. Il faut que la personne soit face à la table, avec une table à hauteur de ses coudes. Et puis parfois aussi, il est nécessaire de favoriser ce qu'on appelle l'antéversion de la tête, c'est-à-dire de pencher légèrement le menton en direction du cou. Alors soit avec une consigne verbale, soit avec une aide matérielle, mais ça aussi, les ergothérapeutes, lorsque c'est en structure. Ben, nous aide à posturer correctement le sujet. Et donc, le fait de pencher la tête légèrement en avant, ça va venir protéger les voies aériennes. Donc, voilà, la posture, elle est très, très importante, celle de celui qui est en train de s'alimenter. Et même si c'est une personne qui s'alimente au lit, l'idée, ça va être vraiment qu'il ait le dos droit et la tête qui part surtout pas vers l'arrière. Voilà. Et puis, au-delà de la bonne posture de celui qui s'alimente, il y a aussi la bonne posture de celui qui l'aide à s'alimenter si l'autonomie lors des repas, elle n'est pas totale. Donc, les dents doivent aussi bien s'installer, donc face à celui qui l'aide à s'alimenter assis et pas debout, par exemple, parce que si les dents est debout, eh bien, il va présenter la cuillère par le haut. Et donc forcément, bah, le sujet pour manger va devoir lever la tête et du coup, nos voies aériennes ne seront plus du tout protégées. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment à éviter. Et puis, pas tout à fait dans ce qu'on peut mettre posture, mais gestion de tout ce qu'il y a autour. L'idée, ça va être vraiment de favoriser un environnement calme pour limiter tous les distracteurs, pour que l'ensemble des ressources cognitives de celui qui mange soit entièrement dédiées au moment du repas. Et puis, ben, l'encourager, décrire le plat aussi, c'est important, le montrer, faire sentir. C'est ce qu'on appelle la phase préorale, elle est très importante, elle prépare au réflexe de déglutition, ça donne envie à celui qui va s'alimenter, ça permet aussi de renforcer les liens qui sont déjà très forts entre ce qu'on appelle l'oralité verbale, c'est-à-dire que le fait de communiquer, et l'oralité alimentaire, voilà. Et puis, bien sûr, respecter le rythme de chacun. Parfois, il s'agira de fractionner les repas. Ce sera nécessaire peut-être pour certains. Et puis, aussi favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est extrêmement important. On parlait des stases en bouche tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de les éviter un maximum puisqu'elles pourraient être inhalées et favoriser le développement donc des infections. Donc, une bonne hygiène dentaire avec aussi des appareillages bien mis, bien fixés, qui tiennent bien et qui soient adaptés. Et puis, quelque chose qui est important aussi, c'est de favoriser l'autonomie pour manger si elle est possible. Alors, ça peut être de l'autonomie aidée. On peut aider à être autonome en posant notre main sur celle de celui qui s'alimente ou en tenant le couvert et en posant la main de celui qui s'alimente sur la nôtre. Voilà, on sait que selon tout un tas d'études, la dépendance pour manger, c'est le premier facteur de risque de pneumopathie. Donc, c'est important d'essayer de solliciter cette autonomie au maximum.
Merci beaucoup pour tous ces conseils pratiques à mettre en place pendant les repas. Ils seront, j'en suis sûre, très utiles aux auxiliaires de vie qui nous écoutent. Je reviens aux fausses routes. Comment réagir en tant qu'auxiliaire de vie si on est face à cette situation? On ne sait parfois pas trop comment faire. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils?
Oui, alors ça dépend du type de fausse route. Il y a deux types de fausses routes, des fausses routes qu'on appelle non obstructives. Donc, c'est-à-dire que les voies respiratoires ne sont pas obstruées et donc la personne ne continue de respirer. Donc là, il s'agit de lui demander d'inspirer doucement, de le rassurer aussi, parce que c'est quand même, je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, mais une situation qui peut être très anxiogène de faire une fausse route, et de demander à la personne donc de tousser aussi le plus fort possible, bouche ouverte, pour essayer de désobstruer les voies respiratoires, et surtout pas de taper dans le dos ou de lui demander de boire. Voilà, ça, on va éviter largement. Donc, demander de respirer doucement, rassurer et essayer de faire tousser la personne le plus fort possible, bouche ouverte. Ça, c'est si on est face à une fausse route non obstructive. Mais si la personne ne respire plus, là, on est vraiment face à une fausse route obstructive. Donc, ça se reconnaît quand même assez aisément. Très souvent, la personne a les mains au niveau de la gorge, les lèvres bleues, etc. Donc là, on n'a pas du tout le même la même attitude là. L'idée, c'est d'alerter de toute façon de suite, soit un soignant, soit quelqu'un d'autre qui est avec nous dans la salle, et puis d'alerter aussi le 18 ou le 112 et d'essayer de désobstruer manuellement, ou selon on se trouve avec un matériel d'aspiration. Mais bon, manuellement, c'est la première chose qu'on essaye de faire. Et puis aussi, bah, de pratiquer la manœuvre de Emmlich, voilà, qui consiste à désobstruer les voies aériennes en tenant la personne, en se mettant derrière lui, en mettant nos poings à un endroit bien précis. Bon, ça, il y a plein de vidéos qui expliquent la manœuvre de Emmlich et qui est absolument nécessaire dans de nombreux cas de fausse route obstructive.
Est-ce qu'il y a des exercices simples que les auxiliaires de vie qui nous écoutent peuvent encourager pour renforcer les muscles de la déglutition chez leurs bénéficiaires?
Alors, pas vraiment, disons. Pas vraiment. C'est le rôle des aidants, c'est plutôt qu'ils soient professionnels ou familiaux, c'est plutôt d'être vigilant aux signes évocateurs dont on a parlé tout à l'heure, de faire appel aux professionnels concernés, de veiller à la mise en place de toutes les adaptations, qu'elles soient alimentaires, environnementales, posturales ou matérielles, peu importe. Mais c'est pas vraiment de proposer des exercices. Si ces exercices sont utiles, c'est l'orthophoniste ou le kiné qui les réalisera. Voilà, c'est pas toujours d'ailleurs automatique. La mobilisation des structures dont on a besoin pour la déglutition. Ce qu'on sait en revanche, c'est que c'est très important que si des personnes réussissent à mastiquer encore, de continuer à leur proposer des plats qui vont avec des textures qui vont stimuler cette mastication. Donc en fait, c'est pas vraiment des exercices, mais c'est continuer au quotidien à les faire mastiquer parce qu'on sait que moins ils vont mâcher, moins ils vont mastiquer, et moins ils pourront le faire, et ils sauront le faire. Et donc c'est là où c'est des personnes qui vont se retrouver en grande difficulté. Donc voilà, mais pas vraiment d'exercice à réaliser à proprement parler.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Avec grand plaisir.
Je suis convaincue que tous ces conseils pourront aider les auxiliaires de vie qui nous écoutent à mieux prendre en charge les difficultés de la déglutition chez leurs bénéficiaires. C'était très intéressant, un grand merci.
Avec grand plaisir.
Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et tout de suite sur le site de Petit-Fils. la-pause-petit-fils.com.